Troisième jour, l'après-midi. Les dragons dans la nuit. Chapitre 18. La route de l'Ouest. On n'aime jamais qu'un fantôme. Paul Valéry. 1. Le soleil, la poussière, l'asphalte, la chaleur de la fin d'été. John Coltrane dans l'autoradio. Fenêtre ouverte, bras repliés sur la portière, cheveux en bataille, Marc Karadec taillait la route. Le paysage défilait derrière sa paire de lunettes teintées. Des fermes d'élevage, des pâturages, des tracteurs et des silos à grains. Le paysage d'une Amérique rurale, figée dans le temps. Des champs à perte de vue, à plat monotone aux couleurs de blé, de maïs, de soja, de tabac. C'était la première fois que Marc mettait les pieds dans le Midwest. Immédiatement, il avait pensé au cours de géographie qu'il faisait réviser à sa fille lorsqu'elle était au collège. Ces cartes coloriées au crayon de couleur qui délimitaient les grands espaces agricoles américains. Corn Belt, Fruit Belt, Wheat Belt, Dairy Belt. Des devoirs chiants, complètement abstraits lorsqu'on a 14 ans et qu'on n'a jamais beaucoup voyagé, mais qui prenaient pour lui aujourd'hui une réalité saisissante. Karadec déplia le bras pour éviter une crampe et regarda sa montre. Un peu plus de 17 heures. 4 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait abandonné Raphaël au bar à huîtres. Sur une intuition, il avait foncé à JFK et acheté un billet d'avion pour l'Ohio. Moins de 2 heures de vol plus tard, il atterrissait à Columbus. À l'aéroport, il avait loué une Dodge. Pour les premiers kilomètres, il avait essayé de faire fonctionner son GPS, puis y avait renoncé. Il avait mis le cap sur le nord-ouest, se contentant de suivre les panneaux indicateurs en direction de Fort Wayne. Il n'avait pas dormi la nuit dernière, et très peu les deux précédentes. Avec le décalage horaire et les anxiolytiques, il aurait dû tomber comme une masse, mais c'était le contraire qui arrivait. Il débordait d'énergie. L'adrénaline qui courait dans son organisme le maintenait dans un état d'exaltation, et tous ses sens étaient en alerte, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'était une acuité dans le raisonnement. Ses pensées fusaient, couraient, s'accéléraient, se bousculaient dans sa tête, dans un chaos fécond qui, jusqu'à présent, lui avait fait prendre les bonnes décisions. La face la plus sombre, c'était une forme d'hypersensibilité. Les souvenirs étaient en embuscade. Élise, la petite, l'irréversibilité atroce de certains événements. Parfois, une larme tiède le prenait par surprise et coulait sur sa joue. Les fantômes rôdaient, et seuls les médicaments les tenaient à distance. Il songea à cette phrase d'Aragon. Être homme, c'est pouvoir infiniment tomber. Lui, ça faisait presque 12 ans qu'il tombait. Ces derniers jours, la douleur s'était réveillée. Elle finirait par gagner, il le savait. Viendrait un jour où elle lâcherait ses chiens qui dévoreraient tout. Ce jour était proche, mais ce n'était pas encore aujourd'hui. Marc prit une longue respiration. À cet instant, sur cette route solitaire, il se sentait doué de clairvoyance. Il avait même l'impression de marcher sur l'eau. Depuis qu'il avait descendu ce flic, cet abruti de Stéphane Lacoste, il était porté par quelque chose qui le dépassait. Lorsque la balle l'avait frôlé, sa peur s'était évanouie d'un coup. Il se remémora la suite de la scène, déroulant les images au ralenti. Il avait saisi son arme, s'était redressé et avait fait feu. Il avait ôté la vie avec une sorte de limpidité et de grâce. Comme si ce n'était pas vraiment lui qui tirait. L'évidence lui avait crevé les yeux. Il allait retrouver Claire, parce que c'était sa mission. Il allait retrouver Claire, parce que c'était dans l'ordre des choses. Dans une enquête de police, l'ordre des choses, c'est ce moment particulier où ce n'est plus vous qui cherchez la vérité, mais la vérité qui vous cherche. Plus de 10 ans après son commencement, l'affaire Carlyle révélait ses ramifications tentaculaires et inattendues. Une gigantesque cascade de dominos qui enjambait les rives de l'Atlantique. Dans sa tête, Marc entendait le bruit des pièces rectangulaires qui tombaient les unes après les autres. Clotilde Blondel, Franck Muselier, Maxime Boisseau, Heinz Kiefer, Joyce Carlyle, Florence Gallo, Alan Bridges. La disparition ou la mort d'un enfant n'affecte jamais qu'une seule famille. Elle embrasse tout sur son passage. Elle consomme tout. Elle casse les êtres. Elle brouille les responsabilités. renvoyant chacun à ses défaillances et à ses cauchemars. Marc arriva à un embranchement, mais n'appuya même pas sur la pédale de frein. Il prit à droite sans regarder ni carte ni panneau. Il n'était pas certain de savoir où ça allait le mener, mais il était certain d'une chose. Le train était lancé. Dans un alignement de planètes, la vérité reprenait brutalement ses droits. Elle refaisait surface. Elle giclait, éclaboussait avec toute la force que certains avaient mise pour la cacher. Le processus était inéluctable et dévastateur. Et lui, Marc Karadec, était un simple instrument de la vérité. 2. Après mon rendez-vous avec Mes Soyoun, j'étais repassé à l'hôtel pour voir mon fils. J'avais lutté pied à pied avec lui pour l'obliger à faire une sieste, et j'avais perdu. Comme souvent, le combat s'était fini devant l'écran d'ordinateur à regarder un vieux Louis de Funès. Sur le coup de 15 heures, il avait fini par s'endormir devant le grand restaurant, et malgré moi, je m'étais laissé glisser avec lui dans les bras de Morphée. C'est le carillon léger d'un SMS qui me réveilla. J'ouvris les yeux en sueur, Théo gazouillait à l'autre bout du lit couché sur le dos, les pieds en l'air, en train de jouer avec Fifi, son chien en pluche. Je regardais ma montre, il était 18 heures passées. « Bordel de merde !» criai-je en bondissant du lit.
« Pas d'être demain !»
répéta mon fils en rigolant. J'inspirais à fond pour ne pas éclater de rire. « Non, Théo, c'est un très gros mot, tu ne dois pas dire ça. » Pendant que mon fils Hilar hésitait manifestement à répéter sa trouvaille, je regardais mon téléphone. Je venais de recevoir un message de Mes Soyoun. « Vous avez un rendez-vous dans 20 minutes. Pearlman's Niche Bakery. » Sans passer par la réception, j'appelais Marieke depuis le téléphone fixe de la chambre. La jeune babysitter était en train de prendre un verre avec ses copines chez Raoul's, un bistrot de Soho. Tout en commandant un VTC sur mon portable, je négociais avec elle pour qu'elle consente à garder Théo le reste de la soirée. Elle pouvait être là dans un quart d'heure, mais en bonne capitaliste, elle profita de sa position pour m'imposer des tarifs déraisonnables que je fus bien forcé d'accepter. J'arrivais donc à mon rendez-vous avec une petite demi-heure de retard. La Pearlman's Niche Bakery était une échoppe d'Essex Street, située à deux pas du 7e Precinct, le commissariat du Lower East Side. La boutique était vide, à l'exception d'un couple de Japonais qui jouait à se prendre en photo devant le comptoir. Derrière un grand présentoir de verre, un vieil homme vendait des spécialités culinaires juives. Dans le fond du magasin, on avait installé quelques tables en formica, encadrées de banquettes en sky rouge. M'étonnant de l'absence de mets, je m'assis à la place la plus proche de l'entrée et commandai une bouteille d'eau. Sur la table, le client précédent avait laissé le New York Times du jour. J'étais nerveux et furieux de m'être endormi. Machinalement, je feuilletais le quotidien en gardant un œil sur l'entrée. Il faisait lourd. Un vieux ventilateur brassait de l'air tiédasse saturé d'odeurs d'ail, de persil et d'oignons frits. Mon téléphone vibra. Cette fois, c'était un SMS d'Alan. « Venez me voir tout de suite, A.B. »« Que se passe-t-il ? » lui demandai-je dans la foulée. « J'ai du nouveau sur Joyce Carlyle. » « Dites-moi, Alan. » « Pas au téléphone. » « J'arrive dès que je peux, » promis-je. Alors que je pianotais sur mon écran, un homme poussa la porte de la bakery. Mon âge, silhouette compacte, cheveux corbeaux, barbe de 3 jours. L'air épuisé, il avait dénoué sa cravate et retroussé les manches de sa chemise. Dès qu'il m'aperçut, il traversa le restaurant d'un pas décidé et s'assit en face de moi. « Détective Barresi, » se présenta-t-il. « Je suis l'ancien coéquipier de May. C'est moi qui ai travaillé avec elle sur la mort de Joyce Carlyle. » Raphaël Barthélémy. Le flic s'épongea le front avec une serviette en papier. « May m'a demandé de vous rencontrer. Je vous préviens, j'ai pas beaucoup de temps. Avec la convention républicaine, on bosse comme des tarés depuis 3 jours. » Barresi devait être un habitué des lieux car le propriétaire lui apporta immédiatement de quoi se restaurer.
« Les nichis sortent du four, Ignatio !»
assura le patron en posant devant le flic un plateau contenant des beignets de pommes de terre, du coleslaw et des cornichons. Une question me brûlait les lèvres. « Vous avez pu retrouver le dossier de l'affaire ?» Barresi se servit un verre d'eau en secouant la tête. « Ce dossier remonte à 10 ans. S'il existe encore, il se trouve dans les archives du 52e Precinct. Concrètement, ça veut dire qu'il est stocké dans des entrepôts à Brooklyn ou au Queens. Je sais pas ce que May vous a promis, mais on peut pas sortir un vieux dossier en claquant des doigts. Il faut des autorisations. C'est compliqué, et surtout ça prend des semaines. » Je ravalai ma déception. Elle m'a dit qu'il y avait une trace génétique sur la scène de crime. Barresi fit la grimace. Elle est allée un peu vite en besogne. La scène de crime était parfaitement clean, justement. La seule chose qu'on a retrouvée, c'était un moustique. Un moustique ? Je pensais qu'il faisait allusion à un terme d'argot policier, mais il s'agissait bien d'un insecte. Ouais, un moustique écrasé, gorgé de sang sur le carrelage de la salle de bain de la victime. Comme toujours, May a voulu faire la maligne. Elle s'est dit que le meurtrier avait peut-être été piqué par le diptère et que si c'était le cas, son ADN se trouvait encore dans le corps du moustique. Dès lors, elle s'est mise en tête de le faire analyser. Vous étiez contre ? Baresi avala l'une de ses boulettes de pommes de terre.
Bien entendu ! Car même en ayant beaucoup de chance, est-ce que ça prouverait le crime ? Absolument pas. Et ça tiendrait pas une seconde devant un tribunal. Donc, ça servait à rien. À l'époque, mais c'était Madame tout pour ma gueule, une ambition démesurée, malsaine. Elle espérait qu'on parle d'elle en tentant quelque chose qui n'avait jamais été fait à New York.
Baresi prit le temps de mastiquer plusieurs niches avant de continuer. Les techniciens se sont occupés malgré tout du moustique. Ils ont réussi à récolter un échantillon de sang qu'on a transmis au labo. Là, les gars sont parvenus à extraire de l'ADN et à établir un profil génétique. Et ensuite ? Le flic haussa les épaules.
Ensuite, c'est la procédure classique, celle que vous voyez dans les séries télé. Le labo a enregistré le nouveau profil dans les bases de données et l'a comparé avec les profils qui y figuraient déjà.
Qu'est-ce que ça a donné ?
Rien. Nada,
assura Baresi en me tendant une feuille de papier. Voici la copie du rapport du labo. J'ai retrouvé leur mail sur le serveur. Comme vous pouvez le voir, aucune concordance avec un profil déjà enregistré. Il croqua dans un cornichon et remarqua, la bouche pleine.
De toute façon, le labo a mis tellement de temps à nous faire parvenir ses résultats que dans l'intervalle, on avait déjà classé le dossier.
Je regardai le rapport. Le profil génétique se présentait sous la forme d'une sorte de code-barre ou d'un histogramme offrant une présentation synthétique de 13 segments d'ADN, les 13 loci nécessaires pour identifier un individu avec fiabilité. C'était frustrant. L'assassin était sans doute là, devant mes yeux, mais je n'avais aucun moyen de connaître son identité. Combien y avait-il de personnes fichées à l'époque ? Baresi haussa les épaules.
Dans le Codice ? Au milieu des années 2000 ? C'était pas exactement, peut-être 2 millions ?
Combien y en a-t-il aujourd'hui ?
Plus de 10 millions. Mais je vous vois venir, il n'est pas question d'effectuer une nouvelle recherche.
Pourquoi ? Exaspéré, le policier pointa vers moi un doigt accusateur.
Je vais vous dire le fond de ma pensée. Dans la police, on est constamment en sous-effectif. Notre boulot, c'est de traiter les crimes et les délits au moment où ils sont commis, pas 10 ans après. Une affaire qui traîne est une affaire malsaine. Pour moi, les cold cases sont une sorte de coquetterie pour intellectuels et j'ai aucun respect pour les collègues qui s'y complaisent.
Je tombais des nues. Je connais beaucoup de flics et je suis à peu près certain que personne ne pense comme vous. Baresi soupira et éleva le ton en se montrant grossier.
Votre affaire, elle pue la merde, ok ? Alors laissez tomber ! Vous avez pas autre chose à foutre que de pleurer sur la mort d'une junkie ?
J'allais m'énerver à mon tour lorsque je compris. Le flic ne pensait pas un mot de ce qu'il disait. S'il essayait de me dissuader d'enquêter, c'était parce qu'il connaissait l'identité de l'assassin.